Bonjour, je suis Jean-Luc Hutarel, architecte enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, et je suis aussi chargé de mission auprès de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, plutôt au titre de l'accompagnement des programmes du Massif central. Je vais évoquer rapidement un angle d'attaque de la durabilité sur la question de l'organisation territoriale d'un pays. Le titre de mon intervention, c'est « Des métropoles et de leur relation aux ressources d'un pays », c'est-à-dire cette relation organique qui existe entre les différents niveaux de structure d'un territoire. J'ai pris comme exemple un travail qui avait été fait par la DATAR. La DATAR, avant qu'elle soit transformée en Commissariat général à l'égalité des territoires, puis en Agence nationale de la cohésion des territoires, avait fait cette étude prospective qui visait à essayer d'identifier des enjeux sur l'évolution des territoires, parce qu'effectivement, dans les années 2010, cette étude, la question des stratégies était déjà très très complexe, et la visibilité que nous pouvions avoir de ce vers quoi allaient les territoires était déjà assez difficile à structurer. Et donc, je vous renvoie vers cette étude qui il me semble tout à fait intéressante, plus de l'aide à compréhension des enjeux et bien sûr de l'aide à la décision pour les décideurs locaux, les acteurs locaux, que ce soit les élus ou les techniciens ou bien sûr les universitaires qui travaillent sur ces sujets. Donc j'irai pas plus loin dans la description de cette étude. Elle a essayé de structurer en sept chapitres les éléments des territoires de la France. Et puis, sur ces sept chapitres, elle a essayé d'imaginer des scénarios en poussant, je dirais presque à l'extrême, un certain nombre de fonctionnements que l'on peut simplement identifier, que je traduirai d'une façon très 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 brève. Cette relation organique que j'évoquais, c'est simplement quelque part une métropole est certes une concentration de personnes et une concentration d'activités, donc une force économique majeure, mais cette force économique majeure, son empreinte environnementale, bien sûr, dépasse largement son périmètre, et quelque part, ce qui représente les ressources qui permettent aux métropoles de fonctionner, ce sont les territoires dits de faible densité, c'est-à-dire là où la place de la production est plus importante que la place des hommes, de l'urbanisme. Et donc cette relation qui est absolument évidente est quelque part le socle de questions de réciprocité qui sont aujourd'hui en débat. Une réciprocité à laquelle on peut faire confiance puisque elle existe, elle est structurelle. On n'imagine pas que un être humain, par exemple, développe un organe plus qu'un autre parce que ça lui prend l'envie. C'est bien l'ensemble de l'organisme qui se développera ou qui aura des difficultés à continuer de fonctionner. Il est évident que tout ce qui est énergie, par exemple, je ne connais pas de centrales de production d'énergie dans les métropoles. Je ne connais pas suffisamment de production de nourriture dans une métropole pour que la métropole puisse se suffire de sa production. Et quand bien même on pourrait essayer de le développer, quel est l'intérêt? Donc là, dans cette, je dirais, à la suite de cette étude de la DATAR, on voit bien que au niveau politique, au niveau gouvernemental, le choix a été fait de dire, quelque part, les territoires non métropolisés sont des éléments de la nation française, et ces éléments de la nation française, sont pas seulement des postes avancés de production en direction des métropoles, mais sont des espaces à vivre. Et de là est née cette action qui s'est déroulée sur maintenant quasiment la décennie, si on prend les prémices du travail sur la revitalisation des centres-bourgs, par exemple dans le parc Livradat-Forez, qui est très proche de Clermont-Ferrand. On voit bien que cette dynamique, ça a été de se dire qu'est-ce qui fait territoire, qu'est-ce qui incarne le territoire dans son projet, c'est bien sûr la ville-centre. Et le centre de la ville-centre, on n'imagine pas un territoire développer son avenir si son centre de vie, de bassin de vie, est en effondrement ou dans l'état où malheureusement un certain nombre de centres-villes sont aujourd'hui des centres de petites villes. Donc il y avait urgence de travailler sur ce sujet. Et c'est ce qu'ont fait plusieurs gouvernements de suite, de 2014-2018 et maintenant 2020, où on est en train quasiment de passer ce type d'action sur le droit commun, quand on est en train de travailler sur un projet pour 1000 villes en France, c'est qu'on n'est pas très très loin de passer dans l'action publique, je dirais, au quotidien. Là où je veux en venir, c'est bien sûr ce qui fait la puissance, la puissance de développement de ces territoires. Ce qui fait leur capacité d'attraction pour les années à venir, hein, pour les décennies à venir, c'est bien sûr ce qui fait leur singularité, ce qui constitue leur singularité, que ce soit des singularités de pratique, de situation historique, d'implantation par exemple d'industrie. On a des exemples proches ici sur Issoire, les aciéries, des Ancises. Voilà, on a un certain nombre d'éléments comme ça éparpillés sur le territoire de production. Mais ce qui est important aussi, c'est de se dire dans un système économique où plus de la moitié de la population, une grande majorité de la population est dans le secteur tertiaire, et par définition, le secteur tertiaire, ce ne sont pas des personnes qui sont obligées d'être sur leur outil de travail tous les jours pour produire, pour développer leur métier. La logique veut, et nous venons de le vivre avec la crise, nous le vivons encore avec la crise du Covid, c'est cet ensemble, cette majorité de personnes peut travailler en connexion virtuelle davantage que par le passé. Et c'est, je dirais presque une curiosité de notre époque de savoir que le développement, les transports sont peut-être, les transports de personnes sont peut-être relativement obsolètes, puisque une bonne partie des trajets qui sont faits n'ont pas forcément lieu d'être. Et donc le travail non concentré ou déconcentré a toutes les chances de s'imposer, et ça c'est un élément fort de la durabilité, de la réduction des gaz à effet de serre que nous produisons. Là où je veux en venir, c'est que dans cette situation, la réalité de la présence des hommes dans des parties de territoire, elle repose sur un certain nombre d'éléments tout à fait tangibles qui sont très partagés dans l'urbanisme à travers le monde. C'est pour ça que je prends cet exemple sur Saint-Flour, où vous voyez en haut la ville haute est posée sur le bout d'une coulée de lave, et puis à la confluence de deux petites rivières, et puis à la confluence d'un certain nombre de voies qui ont suivi les vallées de façon tout à fait pragmatique. On est bien d'accord que ces formes urbaines, elles sont là, il serait aberrant d'imaginer que nous allons construire ou reconstruire un ensemble de bâtiments à toute vitesse pour être plus performant au niveau énergétique comme ce que nous construisons aujourd'hui. C'est très très bien. Par contre, le bâti qui est là et les formes villageoises ou les formes urbaines qui existent, elles auront un certain nombre d'années devant elles, soit plusieurs siècles, puisqu'elles sont elles aussi présentes depuis plusieurs siècles. Donc il est urgent de réfléchir au réinvestissement de ces structures et de réinvestissement de l'architecture, c'est la diapo sur Figeac. Ce qui m'intéresse dans ce développement, c'est que l'attractivité maintenant perçue par les territoires, c'est ce qui les a fait exister à travers les siècles, c'est-à-dire, là vous voyez, c'est cette petite rivière qui est au pied de la grande ville, de la ville moyenne. Cette petite rivière a été l'élément moteur du projet de la ville de Saint-Flour en 1993 exactement, où simplement l'équipe municipale a nettoyé cette rivière et a redonné à cette rivière son importance dans la ville. Et donc ensuite, on voit comment les hommes se sont adaptés à ce territoire, à ces configurations géologiques. On construit à la fois ces bâtis, mais aussi on construit des savoir-faire, des savoirs habités dans ce lieu. Et la question majeure, c'est comment peut-on réinscrire l'espace contemporain dans ses formes. Et donc là, c'est pour ça que je vous montre cet exemple sur Figeac, où vous voyez un immeuble en bois qui a été construit à l'intérieur d'un immeuble ancien, et avec les techniques contemporaines, avec les exigences contemporaines, y compris le fameux espace extérieur privatif qui a été très important dans la crise récente du Covid, et qui est possible de générer de cette façon-là dans ce type de bâti. Donc c'est ce type d'expérimentation qui sont très importantes à développer. L'enjeu majeur de l'intervention sur la ville et sur le bâti, c'est la rénovation du bâti, tout en évitant de construire des bâtiments peu performants, comme malheureusement nous en avons un certain nombre, et puis d'améliorer le bâtiment existant pour éviter de générer dans un temps bref des consommations liées à toute l'énergie grise qu'il faut mobiliser pour construire un immeuble. Donc voilà, sur cette durabilité aujourd'hui, les enjeux sont peut-être de se poser et de voir ce que nous pouvons développer assez rapidement dans nos activités, de reconsidérer ce qui existe pour l'améliorer et l'adapter à aux nouveaux paramètres, qui sont finalement des paramètres assez anciens, mais bon, mettons des nouveaux paramètres. Et c'est peut-être pas le développement d'ultra-technologie immédiate, l'enjeu. L'enjeu, c'est bien de reconstruire ou de retrouver la relation dans un espace national, retrouver les relations de réciprocité, je l'ai évoqué, et puis de reconstruction, de revalidation de la structure existante. Voilà, merci de votre attention.